Et à la fin, c'est quelque chose à laquelle tu fais penser, que ce sont des notes en fenêtre. Qu'est-ce que c'est les notes en fenêtre ou des notes pop-up? C'est une solution, c'est une alternative qui est, je pense, inventée, qui a été inventée par David Foster Wallace, l'écrivain américain, qui jouait tout le temps avec les notes. Il était féru des notes, donc il a expérimenté avec pas mal de possibilités. Voilà le texte de David Foster Wallace, ce que je parle, c'est Host. On peut voir que chaque note est dans une sorte de fenêtre. C'est que aujourd'hui on appellerait peut-être le pop-up, comme quand on est sur Internet, il y a des fenêtres pop-up. C'est un peu comme ça. Donc la mise en page n'est pas évidente, la mise en page change tout le temps. Ce n'est pas quelque chose de trop académique, au contraire, c'est presque avant-gardiste, c'est presque avant-garde. La mise en page change, il y a une sorte de pondeur expérimental là, ça permet de mettre une quantité presque indéfinie des notes qui peuvent être aussi avoir d'autres notes, on peut voir là, il y a des notes dérangeantes ou dans les notes. Par contre, évidemment, ça serait un peu gênant, un peu important peut-être. C'est gênant, on est en train de lire ça et on a l'impression que le commentateur saute aux yeux tout le temps. Il veut se montrer, il veut être repéré. C'est une possibilité. Aussi, on pourrait faire ce que j'appelle maintenant, je vais expliquer un peu, ça demande une petite explication, une édition transhybridée. On pourrait traduire en même temps les textes en français et les textes en anglais en mélangeant les deux versions pour introduire un seul texte hybride. On a le français, l'anglais, évidemment, et ça produit un texte que c'est les textes en espagnol. En théorie de la traduction, la plupart du temps, on parle d'une sorte de relation bipartite. Il y a le texte source, c'est le texte à traduire, et il y a le texte cible, c'est-à-dire la traduction. Mais j'ai trouvé qu'il y a des exceptions à ça. Par exemple, il y a un poète qui s'appelle Nicholas Moore, qui est anglais, qui en 1968, lors d'un concours de traduction, a fait une petite expérience que je pense c'est assez différente de n'importe quelle traduction que j'avais vue jusqu'à ce moment-là. Le concours des traductions, la consigne, c'était de traduire un poème de Baudelaire, Spleen. Il y a plusieurs poèmes qui s'appellent Spleen de Baudelaire. C'est le quatrième, je pense. Ce qu'il a fait, c'est d'envoyer 30 versions différentes du poème, signées avec des pseudonymes. Je pense que 5 versions sont signées Nicholas Moore. Il y a 3 ou 4 versions qui sont dédiées à Nicholas Moore, par lui-même, mais avec un pseudonyme. Après tout, on s'est rendu compte, parce que l'écriture c'était la même, et il a envoyé les poèmes depuis de différentes adresses, mais quand même, on n'a pas pris beaucoup de temps à se rendre compte que c'était lui, toujours. George Steiner était membre d'une jury, et on a décidé de publier, de faire un volume avec les 30 versions. Donc on a là une traduction, on a un texte source et 30 textes cibles. Et il faut tenir en compte qu'il ne s'agit pas de brouillons, des différentes versions, mais que Tatonan veut produire une version définitive. Non, ce sont les différentes approches, avec de différents intérêts. Donc ce sont des objets, c'est une multiplication du texte. Donc on pourrait appeler ça de transmultiplication, quand on prend un seul texte, et de ce texte-là, on sort plusieurs textes, on fait plusieurs traductions. Et on pourrait faire la même chose dans l'autre sens. Ici, on a plusieurs sources, et on pourrait en faire un seul textile. Une seule traduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a en fait une une théoricienne qui a écrit beaucoup, pas mal de choses sur la auto-traduction et sur Beckett, et qui a parlé beaucoup de faire une version qu'elle appelle une version hybride. Mais après, quand elle a eu la chance d'être traductrice de Beckett, il a décidé de faire une traduction conventionnelle. Il a écrit pas mal de choses sur le sujet, mais que je sache, il n'a pas jamais proposé des méthodes pour faire ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de faire une version hybride, comment est-ce qu'on pourrait le faire. Je pense qu'il y a plusieurs approches, on pourrait adopter une approche négative, donc chaque fois que Beckett enlève quelque chose, on l'enlève. S'il y a une version où le texte est plus court, on suit cette version-là. Chaque phrase, c'est-à-dire, c'est une décision qu'on doit prendre tout le temps, on doit voir chaque phrase, quelle est la plus courte, quelle est la plus noire, quelle est la plus obscure, quelle est la plus rétrécie, et on choisit là. Ça serait une approche négative. Et il faut tenir en compte que Beckett, c'est un artiste de rétrécissement, c'est presque un virtuose du rétrécissement. Ça, c'est sa démarche comme écrivain, c'est de couper. Donc ça aurait du sens au niveau du style de l'auteur. Mais en revanche, on pourrait faire la même chose à l'inverse. On pourrait prendre une approche accumulative. S'il y a quelque chose qui est dans une version mais pas dans l'autre, on l'ajoute. Parce qu'on pourrait aussi dire que Beckett, c'est un artiste de l'accumulation. Il est tout le temps en train de se répéter. Même ses autotraductions, c'est un peu un jeu de répétition, de légères modifications, de dire la même chose une deuxième fois. Donc, on pourrait finir avec une version qui soit beaucoup plus longue, qui contient les deux, et même qui mélange les alternatives qu'on vient de voir, qui sont assez surprenantes parfois. Donc si on a dans la version française l'avenir, et dans la version anglaise The Sideman, la grande faucheuse, en espagnol par exemple, ça pourrait donner El futuro, la parca. Donc on fait une apposition et on prend les deux options l'un après l'autre. C'est une juxtaposition des options. Évidemment, le résultat serait confus, serait énorme, serait difficile à avaler, serait presque insupportable, invivable. Mais ça, c'est aussi un choix qu'on peut prendre. Il y a ce qu'on appelle, il y a un chercheur qui a parlé de la licence noétique. La licence noétique serait la liberté qu'a l'auteur, qui s'est traduit là-même, comme il parlait de Joseph Brodsky, le poète russe, qui s'est auto-traduit vers l'anglais. La licence noétique serait la liberté d'un auteur qui s'auto-traduit d'échanger n'importe où la traduction, d'échanger le texte, parce qu'il est l'auteur. Mais le traducteur d'une œuvre auto-traduite, je pense, aurait aussi une sorte de licence noétique contrainte. Parce qu'il peut choisir n'importe quand il y a une divergence entre les deux textes, comme traducteur d'une œuvre autotraduite, il pourrait choisir entre les deux. Donc la chose est différente à des traductions normales. Il faut aussi tenir en compte que l'original même est hybride. La version originale du français, ce n'est pas la même version originale en français maintenant. Pourquoi ? La phrase, peut-être la phrase la plus connue de l'innommable, c'est à la fin, c'est la dernière phrase, qui est devenue même ce qu'on appelle en anglais un inspirational quotation, c'est une citation inspiratrice qu'on peut trouver sur les tasses de café, sur les t-shirts, etc. En fait, n'est pas telle qu'elle dans la version originale en français. La version originale en français, publiée en 1953, je pense, finit avec la phrase « Il faut continuer, je vais continuer ». Mais la traduction en anglais finit avec la phrase « I must go on, I can't go on, I will go on ». Donc, il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Qu'est-ce qui se passe en 1971? On réédite l'innommable en français et Beckett décide de s'auto-traduire et de traduire la phrase avec laquelle Dear Name avait fini en français. Donc c'est une sorte de rétro-traduction. Il ajoute ce qu'il avait ajouté en anglais en français. Donc maintenant, si on achète l'innommable, on peut voir que le texte finit avec « Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer ». Mais en fait, c'est un hybride, quoi. C'est un mélange des deux versions. Beckett lui-même a fait une sorte de transhybridisation, ou auto-transhybridisation, si l'on veut. C'est impossible, donc, de faire une version qui soit pure, pour ainsi le dire. Parce que l'hybridisation est déjà, ou l'hybridation est déjà, dans les processus de traduction que Beckett entamait. Et en fait, j'ai découvert, je pensais que c'était un peu farfelu, mais quand même, j'ai découvert qu'il y a une traduction incroyablement peu commentée, une traduction brésilienne, faite par Paulo Lemis, qui est un très bon poète, un énorme poète brésilien, qui en 1986 a traduit Malhomer, et il a combiné, il a mélangé les deux versions. Il a créé un postface où il dit « J'ai traduit ce livre avec le français à gauche, le anglais à droite, le portugais, milieu deux, entre les deux. » Et c'est la première bitraduction simultanée. Donc, il y a déjà un antécédent là, de Paulo Leminski. Notre version, notre possibilité, texte parallèle, une édition bimonologue. Ce que j'appelle bimonologue. On pourrait publier dans le même volume la traduction du texte en français à gauche et celle du texte en anglais à droite. Donc, on aurait le texte en espagnol du français gauche, en espagnol de l'anglais à droite. La plupart des textes parallèles, c'est que en anglais plutôt on appelle les textes parallèles, ce sont des textes plutôt bilingues, où on a l'original à gauche, la traduction à droite. Mais ici, pour comparer, on aurait les deux textes dans la même langue, mais en fait, ça serait la même œuvre, dans la même langue, deux fois, ce ne sont pas les mêmes textes. Donc, c'est deux textes monolingues, ça c'est bimonolingue, pourquoi pas. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir avoir les textes en parallèle? Bon, il y a entre les textes, entre l'original et la traduction de Beckett et l'autotraduction, une relation qui parfois n'est pas évidente. Prenons le cas de Malhomer.